Bonjour, chers amis auditeurs. Alors, dans le cadre de notre balade des églises du Lot, nous nous retrouvons pour une deuxième émission dans l'église du Montat, l'église Saint-Barthélemy et Saint-Pierre, ou Saint-Pierre et Saint-Barthélemy du Montat. Nous retrouvons Monsieur le maire. Bonjour, Monsieur Mougeot.
Bonjour.
Monsieur et Madame Segui. Bonjour, Monsieur Segui. Bonjour, Madame Segui.
Bonjour.
Marie-Madeleine, bonjour.
Bonjour à tous.
Voilà, et nous retrouvons une personne qui s'est rajoutée au groupe et qui est du Montat, qui est Madame Jeannine Garouti. Bonjour Jeannine.
Bonjour.
Très bien, voilà, nous avons fait le tour de tous nos invités. C'est formidable parce que cela montre une dynamique autour de cette église du Montat. Alors Marie-Madeleine, nous avions terminé la semaine dernière par ce tableau représentant Saint-Laurent. Comment pouvez-vous nous le décrire ?
Alors, c'est un tableau qui représente Saint-Laurent de façon très classique. Saint-Laurent était un diacre, donc il est habillé, enfin il est revêtu de la dalmatique des diacres, c'est-à-dire une sorte de chasuble rouge, mais très ouverte sur les côtés par rapport au chasuble des prêtres. Et il tient dans sa main droite une palme qui est le symbole des martyrs, et il montre de la main gauche le gril sur lequel il a été martyrisé. Et on voit à gauche du tableau en bas les braises sur lesquelles le gril va être posé et Saint Laurent dessus.
Et c'est un tableau de quelle époque ?
Du XVIIIe siècle, comme les deux précédents que nous avons décrits dans l'émission précédente. La Sainte Vierge et la Crucifixion. Celui-ci a été nettoyé, je pense, il n'y a pas très très longtemps. Il a de très belles couleurs, la dalmatique ressort très très bien.
Effectivement, les couleurs sont beaucoup plus claires et beaucoup plus
oui, mais c'est
réjouissantes, on va dire, que les deux autres tableaux.
Voilà, mais il est revenu à son origine, hein, à sa lumière d'origine, et il y a aussi une belle perspective de coucher de soleil, si on peut dire, ou d'aube, mais enfin plutôt de coucher de soleil, sur une colline au fond avec quelques arbres.
Merci. Donc, Marie-Madeleine, nous parlons de coucher de soleil ou de lever de soleil. Comment est située cette église du Montat ?
Elle est située traditionnellement d'est en ouest. Hein, le chevet est à l'est, c'est-à-dire tourné vers Jérusalem, où Jésus est mort.
Voilà, et nous entendons la cloche.
La cloche germaine.
Voilà, la cloche germaine dont nous a parlé tout à l'heure Monsieur Mougeot. Madame Segui, vous pouvez nous rappeler un petit peu quelles sont les différentes célébrations qui se déroulent dans cette église ?
Nous avons la messe célébrée tous les deux mois, le quatrième dimanche du mois, et célébration, sépulture, mariage, baptême.
Oui, comme dans toutes les autres églises. Donc c'est une église qui est quand même ouverte, ouverte aux fidèles. Alors, il y a une particularité, visiblement, dont vous nous avez, monsieur le maire, souligné avant de commencer l'émission. C'est un médaillon qui se trouve pratiquement, pas tout à fait, mais pratiquement en face du tableau de Saint-Laurent. Un médaillon, alors je le dirais en bois. Marie-Madeleine, quelle
oui,
précision ?
Il est en bois sculpté, en bois naturel, c'est-à-dire qu'il n'est pas peint. Et il représente la Vierge Marie à l'enfant.
Mm-hmm.
Et ce médaillon est d'époque 17e. Tout à fait dans la tradition baroque classique française. Et ce médaillon est l'original sur lequel a été peint un autre médaillon qui se trouve à l'entrée de l'église, qui est pas en très bon état, il faudrait une petite restauration. Mais il est significatif parce que c'est rare de trouver un médaillon au-dessus d'une entrée d'église, surtout peint. Il a souffert, donc c'est pour ça qu'il est à tout vent. Donc c'est pour ça qu'il a souffert. Mais ce médaillon que l'on trouve à l'entrée, eh bien, on le retrouve sur ce pilier central de cette église du Montat.
Il est d'ailleurs superbe,
c'est
très bien conservé, et effectivement, le travail est magnifique. Alors, nous sommes sur un dallage de pierre. Il y a quelques précisions peut-être à donner sur ce dallage. Monsieur le maire, peut-être
Oui, bah, comme dans beaucoup d'églises, une partie du dallage est faite par des pierres tombales. Mmh. Alors, soit qu'il y a encore des gens qui sont en dessous, hein, il peut rester des ossements. Il y avait quand même une coutume de se faire enterrer soit dans les églises, soit à proximité des églises. Hein. Ou alors, ce sont des pierres tombales qui ont été réutilisées. Sur certaines, pas sur toutes, la marche des personnes a effacé les sculptures ou les gravures. Sur certaines, on voit encore des restes de gravures. Par exemple, sous la colonne là, de la qui supporte la statue de Sainte Thérèse de Lisieux, mm-hmm. on voit les restes d'une gravure. Malheureusement, la colonne a été posée dessus.
Ah,
donc, il faudra peut-être qu'un jour, on se décide à ôter la colonne pour mm-hmm. retrouver la gravure. Mm-hmm. Il y a encore comme ça quelques gravures, mais qui deviennent illisibles au fil du temps. Voilà. Mais on voit nettement que ce sont des dalles funéraires.
Mmh, d'accord. Oui, comme beaucoup d'églises, effectivement, au fil du temps et au fil des marches des pèlerins et des fidèles, effectivement, ça s'est effacé. Alors, nous apercevons aussi un certain nombre de statues Marie-Madeleine, donc déjà Sainte Thérèse, mais nous venons de passer, avant d'aller vers Sainte Thérèse, nous sommes passés devant une statue vêtue de bleu, d'un manteau bleu.
Alors, c'est la statue du saint patron de l'église. C'est Saint Barthélemy, donc, qui a une robe blanche et un manteau bleu un peu turquoise, avec des parements dorés. Il porte une grande barbe, ça compense un peu sa tonsure, si j'ose dire. Voilà, il est un peu chauve, il a quelques cheveux à l'arrière, voilà. Il a une très belle tête. Bon, ce sont des statues 19e, mais
oui,
voilà.
C'est l'école sulpicienne. Hein,
voilà, Saint-Sulpice, oui. Il porte un parchemin dans sa main droite, mais aussi l'instrument de son martyr, le poignard, dans sa main gauche, puisqu'il a été écorché vif.
C'est le patron des bouchers, non, c'est ça?
Oui.
Voilà. Voilà, donc, précision, le patron des bouchers. Donc, il y a d'autres statues. Marie-Madeleine, donc, il y a Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus qui est à notre droite. Et nous avons, évidemment, quand nous nous retournons, un beau
Saint-Antoine de Padoue.
Voilà.
Qui n'était pas du tout de Padoue, qui était espagnol. Oui, même portugais, pardon. Portugais, mais qui est mort à Padoue, voilà. Où on trouve une basilique assez extraordinaire avec tous les restes, entre guillemets, les reliques de Saint-Antoine. Mmh.
Donc, nous continuons le tour des statues. Lorsque nous sommes devant l'abside, il y a une statue tout de suite à droite avant d'entrer.
Oui, face à la chaire, nous avons Saint-Joseph. Avec l'enfant Jésus dans les bras.
Qui est très beau d'ailleurs.
Très belle statue, très très belle statue, très touchante. Voilà, il est habillé de marron et or, avec un petit peu de bleu-vert. Et l'enfant Jésus a un geste tout gentil de bénédiction dans la main droite, et il porte le monde sur ses genoux. Mmh. Voilà, mais la tête de Saint-Joseph est très belle. Oui, le lys sur l'épaule, hein, le lys qui est le symbole de Saint-Joseph.
D'accord, très bien. Alors nous avançons dans la nef et nous apercevons sur la droite et sur la gauche deux chapelles. Alors dans la chapelle de gauche, il y a une statue au-dessus d'un autel. Cette statue représente...
Alors, cette statue représente Jésus qui montre ses plaies, mm-hmm. qui montre ses plaies, du moins dans la main gauche. Hein, on voit le stigmate au creux de la main.
Voilà, on s'approche un tout petit peu, Marie-Madeleine, parce que vous allez nous décrire un petit peu les couleurs de cette statue. Elles sont vraiment de très très belles couleurs.
Oui, donc ce sont des couleurs riches. Hein, la robe est rouge. Avec des ornements dorés. Ensuite, il est recouvert d'un manteau, ce qu'on appelait un manteau, c'est-à-dire un linge qui recouvre le corps, avec quand même avec des manches très larges, fond vert avec des petits dessins dorés, un galon doré, et l'intérieur des manches en bleu turquoise. C'est vraiment très beau, c'est beau. Hein, ça peut paraître chargé, et puis surtout sur les épaules du Christ, hein, qui était quelqu'un de très humble et modeste. Là, c'est vrai que l'époque sulpicienne l'a chargé d'or. Hein.
Et donc, nous apercevons une inscription en bas, sur le socle de cette statue, qui indique « Venez à moi ».
Venez à moi, oui, voilà. Venez à moi. Que l'on soit humble ou riche, venez à moi. Hein. Et les petits-enfants aussi, hein, venez à moi, tous ceux qui veulent me suivre.
Très bien. Alors, en dessous, nous apercevons un autel. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cet autel, Marie-Madeleine ?
Alors, l'autel est 19e. Il est supporté par des colonnes à chapiteau corinthien, c'est-à-dire à feuilles d'acanthe. Et il y a... un devant d'autel que l'on appelle un antependium, le nom latin, qui représente le Christ, Sacré-Cœur, qui montre son cœur, là aussi avec une main stigmatisée, et devant lequel s'est agenouillée une sainte, ou est-ce la Vierge Marie, mais je ne pense pas. Monsieur le maire, je ne sais pas si vous avez l'explication.
Non, je n'ai pas d'explication. Je l'avais interprété comme l'apparition du Sacré-Cœur à Paray-le-Monial.
Voilà, à Marguerite à la Coque.
Voilà.
C'est ça.
Sachant qu'en plus, la statue du haut, quand vous approchez, alors c'est compliqué parce qu'elle est haute par rapport à nous,
oui.
Mais moi je suis monté pour la mesurer, donc j'ai vu de près. En fait, sous la main droite du Christ, il montre son cœur,
ah,
on voit
oui,
son cœur.
Également, on ne le voit pas d'ici.
Voilà. Et puis là, on voit quand même aussi devant
au-dessus
du tabernacle.
Oui, en dessous, c'est consacré au Sacré-Cœur.
Donc, j'avais interprété ça comme quelque chose
absolument.
De consacré au Sacré-Cœur.
Absolument.
Voilà.
Mais nous apercevons, oui, le Sacré-Cœur qui est juste au-dessus d'un tabernacle, ce tabernacle sur lequel il y a l'agneau. L'agneau, bien sûr.
Et sept sceaux.
Voilà.
L'Apocalypse. Donc, oui, donc on peut revenir un peu sur le Sacré-Cœur. Marguerite à la Coque était une religieuse du XVIIe siècle, dont le confesseur était Claude de la Colombière, et tous les deux ont lancé, si j'ose dire, la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus.
Voilà. Alors nous continuons dans les chapelles. Donc là nous sommes dans une chapelle dans laquelle se trouve cet autel dédié, on va dire, au Sacré-Cœur, et nous traversons la nef et passons devant l'abside pour aller sur et vers la chapelle de droite lorsque nous rentrons dans l'église. Alors Marie-Madeleine, il y a une statue qui est dédié donc à Notre-Dame des Victoires.
Notre-Dame des Victoires, oui, qui est couronnée, largement couronnée, si j'ose dire, parce que cette couronne est, je dirais, collée sur sa tête de façon un peu dangereuse, d'ailleurs, on dirait qu'elle va tomber. Et l'enfant Jésus est également couronné d'une belle couronne dorée. Voilà, et donc les couleurs sont blanc et bleu ciel. Voilà, Notre-Dame des Victoires. Et ensuite, il y a un autel, donc toujours 19e, en marbre blanc-gris. Et donc, le devant d'autel représente la présentation de Marie au temple, avec donc ses parents derrière qui lui font monter les degrés du temple, pour être accueillie par le grand prêtre qui va l'accueillir pour quelques années, puisqu'elle doit avoir 3 ou 4 ans quand elle est présentée au temple, et elle va y rester jusqu'à l'âge de 12-13 ans, et ensuite elle recevra l'annonce par l'ange Gabriel, l'annonce à Marie qu'elle va être la mère du Fils de Dieu.
Alors, au-dessus de la statue de Notre-Dame des Victoires, nous apercevons une croix et une peinture. représentant une croix.
Oui, une peinture murale qui représente une croix sur un enroulement de feuilles d'acanthe. Voilà, qui est la croix, évidemment, c'est le symbole, évidemment, de la mort de Jésus, mais aussi de sa résurrection, de la croix victorieuse.
Alors, à droite de cet autel et de cette statue, monsieur le maire, il y a un magnifique vitrail. Il y a peut-être quelques mots à dire sur ce vitrail.
Alors, les vitraux des deux bas-côtés, d'ailleurs, sont du 19e, bien sûr. Donc, ce vitrail représente une Vierge à l'enfant. Et il a été offert par la famille, Dufour. Voilà, le vitrail d'en face a été offert par la famille Fournier. Voilà.
D'accord.
Qui donc, comme je l'ai dit lors d'une autre émission, sont les parrains et marraines de la cloche Germaine.
Voilà, tout à fait.
Donc ce vitrail, c'est vrai, est magnifique, il a des couleurs superbes. Il est en bon état, c'est sûrement le vitrail en meilleur état de toute l'église
de toute l'église, voilà. D'accord. Alors Marie-Madeleine, qu'est-ce que représente exactement ce vitrail? Donc il y a vous disiez tout à l'heure la Vierge à l'enfant, mais il n'y a pas que cela, il n'y a pas que ces deux personnages, il y a d'autres représentations, on va dire.
Alors, il y a une inscription au pied de la Vierge Virgo Mater Dei, c'est-à-dire la Vierge Mère de Dieu. Et elle tient, la Vierge donc tient l'enfant Jésus sur son bras droit, mais elle a aussi un chapelet. Mm-hmm. Un chapelet, et au-dessus, on trouve une sorte d'autel avec un tabernacle. Et tout ça, c'est symbolique, bien sûr. Hein, le Fils de Dieu qui devient, qui donne sa vie, et qui, pour tous les chrétiens, devient corps du Christ. Mm-hmm. Hein, voilà.
Alors, nous apercevons, donc nous avons le vitrail représentant la Vierge Marie et la Vierge en enfant, et nous avons à sa droite un vitrail, monsieur le maire, dont vous venez de nous parler, donc du 19e. Marie-Madeleine, nous apercevons quelque chose au-dessus de ce vitrail, tout à fait en haut.
Oui.
Je n'arrive pas à voir très très bien ce que cela représente.
Alors, il s'agit de l'Arche d'Alliance, c'est écrit en latin, Federis Arca. C'est l'Arche d'Alliance de Moïse qu'il a transportée à travers le désert et dans laquelle il y avait les insignes de la prêtrise de son frère Aaron qui était chef de la tribu des Lévites, c'est-à-dire des prêtres. Et à l'intérieur, donc, ont été mises les tables de la loi reçues au mont du Sinaï par Moïse. Et ensuite les insignes donc de prêtrise de la tribu des Lévites, de ceux qui sont devenus les prêtres ensuite, voilà. Et cette arche d'alliance donc a été mise dans le temple de Jérusalem, mais qui a été détruit et reconstruit sous Salomon. Et qu'est devenue cette arche? Donc les Juifs la conservent à l'heure actuelle à Jérusalem dans ce qui est le soubassement du temple. Précieusement, est-ce l'original? Voilà. Il y a peut-être des restes, c'est fort
donc,
possible.
Voilà, monsieur le maire vient d'apprendre quelque chose.
Oui, sur la signification du vitrail, je viens d'apprendre quelque chose que je ne connaissais pas.
Parce que l'Arche d'Alliance, donc il y a le coffret, si vous voulez, de l'Arche elle-même, et ensuite les brancards, et au-dessus les deux tables de la loi. Mais tout ça est décrit dans le livre de l'Exode, très précisément, parce que Dieu a donné à Moïse toutes les dimensions de l'Arche. Et ça, c'est tout un chapitre de l'Exode qui est vraiment très intéressant à lire, parce qu'il est très long d'abord, parce que c'est très 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 précis.
Et donc, on reconnaît sur les vitraux que nous venons de décrire les couleurs très spécifiques du 19e.
Oui, il y a toutes les couleurs en fait, hein, les jaunes, les bleus, voilà.
Ce bleu royal, en fait,
oui,
ce bleu vif.
Oui, voilà, bleu vif. Mais oui, c'est le symbole à la fois du ciel, mais aussi de la royauté du Christ, et l'or du fait qu'il est roi aussi, hein, puisqu'on lui a offert l'or, les rois mages lui ont offert l'or, hein, en signification de sa royauté. Voilà, donc oui, tout ça c'est symbolique, hein, toutes les couleurs sont symboliques, et le rouge évidemment c'est le symbole du sacrifice.
Et juste au bas de ce vitrail, à droite, il y a un confessionnal. Est-ce qu'il y a une date précise sur ce confessionnal du 20e peut-être, hein, monsieur le maire ?
Je ne peux pas vous renseigner. Moi, je l'avais daté, oui, fin du 19e, début 20e.
Voilà. Oui, c'est un petit peu l'aspect qu'il donne. Oui, il est très grand d'ailleurs.
Il est en très bon état.
Il est en très bon état, voilà, tout à fait.
Il est en très bon état, oui, fin 19e.
Oui, voilà. Alors, outre les statues, les chapelles que nous venons de voir et les différents tableaux, monsieur le maire, vous avez quelque chose à rajouter?
Oui, en fait, les statues ont toutes été restaurées, de même d'ailleurs que la statuaire de la crèche, parce que elle n'est pas exposée évidemment à cette époque liturgique de l'année, mais nous avons une très très belle crèche. Les statues font une hauteur de environ 60-70 cm, qui est sortie tous les ans, qui est exposée tous les ans. L'église est ouverte au moment du temps de Noël pour que les personnes puissent venir voir la crèche. Mmh. Et donc toutes les statues, y compris la crèche, ont été restaurées bénévolement par un habitant du Montat, qui est artiste peintre amateur, qui est Monsieur Gérard Conegero, qui était conseiller municipal il y a quelques années et qui a restauré absolument toute la statuaire de cette église. Voilà. Mmh. Et derrière nous, il y a également une magnifique croix que vous avez peut-être vue sur le pilier.
Alors nous allons nous y rendre justement auprès de cette croix. Nous allons bien sûr voir cette belle croix. Voilà, qui est ici, qui est devant nous, qui est en bois, me semble-t-il.
Oui, elle est en bois peint. Le Christ est donc un peu à la façon 17e, et un peu déhanché. Et le support, donc, c'est une croix travaillée en bois, avec des embouts circulaires et un petit décor autour du croisement en feuilles d'acanthe stylisées et dorées. On dirait d'ailleurs les couleurs de la croix, donc ce sont des croisillons noirs entourés de doré sur fond turquoise, et on dirait de l'émail. Hein, on dirait que cette croix est émaillée. Ça ressemble un petit peu aux émaux limousins, hein, puisque nous sommes presque de la région, nous sommes pas loin des émaux limousins, et ça ressemble tout à fait à une croix émaillée.
Alors, pour terminer cette émission, monsieur le maire, nous allons parler d'habits sacerdotaux que vous avez ici au Montat. Et je souhaiterais qu'on en parle de façon ample, dans la mesure où vous faites une exposition souvent lors des journées du patrimoine en septembre de ces habits sacerdotaux. Donc nous pouvons les voir.
Oui, oui.
Voilà, nous allons nous rendre donc dans la sacristie, monsieur le maire, mais vous pouvez peut-être nous dire un petit peu deux mots avant que nous allions les voir.
Alors, puisque vous avez parlé des journées du patrimoine, je tiens à souligner l'excellence des relations que nous entretenons déjà avec la paroisse de la cathédrale, avec les curés successifs.
La paroisse de Cahors, bien sûr.
De Cahors, voilà, les curés successifs, donc qui dirigent cette paroisse. Et grâce à leur accord, nous pouvons exposer tous les ans les habits sacerdotaux et certains objets liturgiques avec des fiches techniques d'explication de leur origine, de leur utilisation, de leur signification latine, de façon à ce que le public qui vient, et le public est toujours nombreux, de façon à ce que le public qui vient pendant ces deux journées puisse connaître mieux.
Et découvrir.
Alors,
mieux. Nous allons les découvrir. Ils se trouvent, monsieur le maire, dans la sacristie. Donc, nous repassons dans l'abside et nous nous rendons dans la sacristie qui se trouve à la droite de cette abside. Voilà. Voilà, on me dit, attention, il y a une marche, voilà. Alors, nous nous rendons, en fait, Alors les voilà, ces habits sacerdotaux, ils sont magnifiques.
Alors il y a une très belle collection qui a été retrouvée en partie dans la sacristie, mais on les a sortis de la sacristie parce que la sacristie était humide. Donc il y a eu des travaux de fait sur le bâtiment de la sacristie pour la mettre hors eau. Donc maintenant c'est fait, mais avant c'était très humide. Et puis il y en avait une partie également qui était conservée dans des sacs poubelles, des sacs en plastique, dans l'entrée du clocher, dans un meuble. Donc on a tout ressorti. On a essayé de. Donc il faudrait peut-être en restaurer quelques-uns si il y a des couturières bénévoles, voilà. Mais on les a ressortis et on les expose. Donc il y a essentiellement une très belle collection de chasubles en boîte de violon.
Oui.
Comme par exemple ici, cet ensemble rouge. Certaines collections sont complètes, donc la chasuble, l'étole, la manipule, la bourse donc d'autel, le voile de calice. On a absolument tout pour certaines couleurs. Voilà. Donc voilà par exemple ici, c'est magnifique. Elles sont en très bon état en plus.
Et elles datent de quelle époque ? À peu près 19e, début 20e.
Je pense, oui. À peu près. Elles sont peu usées, donc pendant de nombreux siècles, l'Église a utilisé les ornements en boîte de violon.
Oui.
Mais comme elles sont peu usées, on peut supposer que c'est 19e. Enfin, d'accord. Sinon, elles seraient peut-être plus usées.
Oui, voilà. Je me doute. Vous avez un autre vêtement donc à nous présenter.
Alors il y a cet ensemble ici qui est donc du temps liturgique ordinaire, couleur vert. C'est pareil, magnifique.
Ah oui,
super. Voilà. Et c'est pareil, il est complet. On a absolument tout.
D'accord. D'accord.
Et on a donc des chapes.
Oui.
Alors bien sûr, il y a des chasubles romaines, hein, comme on utilise maintenant dans la liturgie.
Oui, mais qui sont pas forcément du XXIe siècle. Hein.
Oui, qui doivent remonter, je pense, au siècle dernier, au XXe siècle. Hein, voilà. Oui. Mais bon, qui sont entre
alors,
guillemets, plus ordinaire.
Nous voyons nous apercevons une autre,
blanche.
Un autre habit sacerdotal, là, qui est blanc, enfin, qui semblerait sur fond blanc.
Oui.
Là aussi, il est
avec
complet,
un décor damassé. De,
damassé, voilà, tout à fait. Oui. Effectivement. Rouge, doublé de rouge, et blanc, sur fond blanc. Il semblerait.
Là,
et avec
il
des fleurs, oui, mais beaucoup sont avec des fleurs, hein, visiblement. Marie-Madeleine, oui, vous voulez peut-être ajouter quelque chose?
Je pense que celle-ci est la plus ancienne de la collection. Je pense qu'elle est 18e.
D'accord.
Et elle est très très belle parce que il y a non seulement le tissu damassé, mais il y a aussi ces broderies, ces rebrodés, si vous voulez, de fleurs, de tout un panel de fleurs et d'inscriptions JHS. Qui est magnifique, qui est splendide.
Voilà, donc il y a pour tous les temps liturgiques pratiquement le blanc, le rouge, le vert
et le violet.
Et le violet, évidemment, qui représente des temps d'attente, on va dire, les fameux temps liturgiques et d'attente. Et il y a également pour les enterrements, hein, les chapes pour les enterrements. Il y a également, celle-ci est toute dorée. Elle était complète aussi, également, celle-ci?
Alors, ça, c'est la chape avec l'étole qui va avec. Voilà. Donc, on n'a pas les chapes de toutes les couleurs liturgiques. Alors, elles ont dû disparaître au fil du temps.
Oui.
Il n'y a que celle-ci dorée et les chapes d'enterrement.
Oui.
Donc, il y en a deux, probablement, pour les enterrements de première classe et les enterrements de seconde classe. Comme... Non, mais c'est vrai, comme,
oui,
comme c'était.
Ça,
parce que celle-ci est beaucoup moins ouvragée que celle-ci.
Voilà, des habits sacerdotaux qui sont quand même bien conservés et qui sont magnifiques, magnifiquement brodés, magnifiquement mis en valeur lors des journées du patrimoine le troisième dimanche de chaque année. Donc nous entendons bien sûr Monsieur le maire qui remet les habits sur leur cintre et notamment sur les portants. Eh bien, écoutez, nous terminons par les habits sacerdotaux, cette émission et ces deux émissions au Monta, dans l'église du Monta. Merci, monsieur le maire,
merci
de nous avoir reçus dans cette
merci
belle église. Merci, madame Segui.
Merci et bonne journée.
Voilà. Merci, Marie-Madeleine.
Au revoir à tous.
Merci Jeannine.
Non, mais au revoir à tous.
Voilà, qui est venue supporter toute l'équipe là et être ensemble. Au revoir Monsieur Segui aussi, qui nous a précisé que pour le mariage, son mariage et mariage Monsieur et Madame Segui, l'abside était noire et elle a été donc restaurée et elle est lumineuse. Merci chers auditeurs de nous avoir écoutés et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre balade dans les églises du Lot. Au revoir.
Au revoir.